France Inter.
J'en profite qu'il y a des créateurs dans la salle, je crois, de mode. Alors j'en profite, messieurs les stylistes, pour vous rappeler l'existence de, d'un élément que vous avez sans doute omis, qui s'appelle le ventre. Ça se situe entre les seins et le bassin. Et ça a une fonction digestive ou respiratoire, voilà. Donc si vous pouviez les intégrer dans vos créations les prochaines fois. Alors non, je sais que ça va dénaturer vos croquis, mais pensez-y, c'est une fonction vitale.
Bonjour Yvan Jacob.
Bonjour.
Vous êtes autrice, vous êtes journaliste, vous êtes spécialisée dans l'histoire de la mode. Vous êtes déjà venue dans cette émission. Vous avez publié tout récemment le livre Paré, enquête sur l'émancipation vestimentaire des femmes. C'est chez Hugo Doc. Et vous avez un compte Instagram merveilleux pour qui s'intéresse au style, qui s'appelle Sapé comme jadis. On va se demander si cette émancipation dont vous parlez, ça vaut aussi pour les femmes grosses. Alors le corset, parce qu'on a appelé cette interview passion. Corset, c'est un petit peu l'image qu'on se fait de la femme entravée, enfermée dans une armature rigide. Vous en avez essayé, vous, Yvan ? C'est un plaisir, le corset.
J'en ai essayé plusieurs fois et je ne peux pas dire que c'est un plaisir, mais, puisqu'il y a un mais, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on essaye majoritairement des corsets qui ne sont pas faits sur mesure. Or, le corset, et c'est fondamental, devait être fait plutôt sur mesure pour les femmes, et c'est ça qui le rendait supportable, ou en tout cas, qui rend le fait de le porter aujourd'hui insupportable.
Pour autant, à l'époque du corset, le but, c'était quand même de souligner une taille très très fine, une taille de guêpe, comme vous dites, Aline Thomas, dans votre livre. Il n'y avait pas de culte de la minceur à l'époque du corset.
Alors, je vais faire une réponse qui est un peu chiante pour la radio, mais il n'y a pas une époque du corset, vraiment ça n'existe pas parce que ça s'étale sur plus de 3 siècles, 4 siècles, et donc il y a des tonnes de corsets, et même pour chaque époque il y a des tonnes de corsets en fait, même au 19e siècle qui est vraiment le corset dont on a l'image la plus présente à l'esprit généralement pour les gens qui connaissent pas tant que ça l'histoire de la mode, c'est des corsets pour faire du sport, des corsets de grossesse, des corsets
de grossesse. Genre on comprimait le ventre ?
Non, on le comprime pas, il est adapté avec des goussets pour laisser de la place au ventre, mais maintenir quand même le corps, parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas de soutien-gorge. Donc en fait, l'image qu'on a qui est terrible du corset, effectivement, qui entrave les femmes, etc., c'était aussi quelque chose qui pouvait être, j'aime pas dire positif, mais en tout cas qui aidait à soutenir la poitrine. Vous savez, au moment du Covid, les gens ont dit « Ah, c'est bien, les femmes, certaines femmes ont dit on va pouvoir se passer du soutien-gorge, mais quand on a une poitrine imposante, c'est horrible de pas avoir de soutien-gorge. » Et donc le corset, il servait aussi à ça, et il y avait des corsets qui étaient extrêmement serrés, mais c'était pas la majorité. Et c'était pas tout le temps le cas.
Alors, dans le livre d'Aline Thomas, on apprend que les Grecs recommandaient pour ne pas grossir, donc de rester nu le plus de temps possible. Donc là, actuellement, si je suis grosse, est-ce que c'est parce que je m'habille au quotidien ?
L'Antiquité est une période que je maîtrise très mal, mais je sais pas si vous avez l'expérience de l'été d'être dans des vêtements plus fins ou plus légers. On va faire peut-être plus attention à son corps quand on est plus nu ou dans des vêtements plus légers que quand on a
des couches.
Et justement, le vêtement avant le XXe siècle, c'est des couches et des couches, et c'est une structure qui structure et qui modèle de manière totalement artificielle le corps.
Et pour lequel le poids n'a pas d'importance, en fait.
Bah, c'est pas que ça n'a pas d'importance, c'est-à-dire que la grosseur a quand même toujours été... C'est-à-dire qu'il y avait une envie de corps intermédiaire, moyen, en fait, on va dire. C'était pas non plus... Le corps gros n'était pas valorisé. En revanche, pour les femmes, on pouvait valoriser des rondeurs, mais sur certaines parties du corps, la poitrine, les bras, les hanches, ce qui mettait l'accent, en fait, sur la féminité. Et, en fait, par féminité, on entend surtout le fait de pouvoir faire des enfants, et donc la maternité, le fait d'être fertile, en fait.
Et alors, quand est-ce que les corps minces sont devenus l'alpha et l'oméga dans la mode ?
Alors, à partir du début du XXe siècle, il y a une tendance qui commence, surtout dans le monde anglo-saxon et surtout aux États-Unis, au sport et au corps svelte et musclé, y compris chez les femmes. Et à partir des années 20, il y a une mode qui est très androgyne, hein, la mode
de la garçonne.
De la garçonne, exactement, avec un corps très fin. Et c'est vécu dans l'histoire de la mode, c'est décrit comme une libération parce que les femmes s'émancipent du corset, des choses extrêmement contraignantes, extrêmement lourdes, mais ça s'accompagne, et on oublie souvent, trop souvent de le dire, de diktats sur la minceur qui existaient moins avant parce que le corps était plus caché.
Et qui sont devenus de plus en plus forts au fil du siècle.
Exactement.
Il y a quand même des choses qui bougent ces dernières années, non, Yvan, Aline ? Le mouvement body positive, ça a bien dû changer des choses dans la mode.
Alors, oui et non.
La perplexité sur le visage d'Aline est arrivée très très rapidement.
Je pense que ça, le body positive, en fait, c'est ce qui est surtout flagrant, c'est le fait que les femmes grosses, ou en tout cas celles qui n'arrivaient pas à trouver des vêtements dans les magasins de prêt-à-porter et qui n'arrivaient pas à s'habiller, ont commencé à dire, et surtout grâce aux réseaux sociaux, ont commencé à dire « je ne trouve pas de fringues à ma taille ». Donc il y a une libération de la parole et... J'allais dire, on a essayé de s'adapter un petit peu à ça. Donc, on a commencé à avoir des vêtements un peu grande taille, mais surtout dans de la fast fashion et pas complètement. C'est-à-dire, ça reste quand même une niche. C'est pas devenu inclusif, disons.
Non,
ça reste
quand même. Et surtout, il y a eu un mouvement body positive qui s'est ratatiné sur lui-même et qui, depuis quelques saisons, là, dans la mode, ça se voit. Les gens qui font des statistiques sur les tailles des modèles qu'on voit sur les catwalks, sur les podiums des défilés, et ça avait un petit peu progressé et ça a totalement diminué là depuis 2 ou 3 saisons. On est revenu en arrière à ce niveau-là.
Donc il y a eu une parenthèse de 4 ans à tout casser.
Ouais, très 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 courte. Ah.
Pardon.
Mais allez-y. Non, allez-y.
En fait, très souvent aussi, on voit que même par rapport à l'acceptation des corps gros, ça dépend aussi beaucoup de la situation économique et de la santé morale du pays. Et en fait, très souvent, quand tout va bien, on tolère le corps gros, le corps qui est bon vivant. Et dès qu'il y a une crise économique ou dès qu'on est dans une situation comme actuellement où il faut commencer à maîtriser les choses, c'est-à-dire on essaye d'avoir du contrôle sur les choses parce que tout part un peu à volo.
Ah, le corps vient en premier.
Le corps revient en premier et le contrôle du corps, donc la minceur, revient.
Il y a un truc sur lequel je voulais rebondir sur l'extrait de Florence Foresti. Elle dit « messieurs » en parlant des créateurs de mode. Ouais. Et c'est aussi une vraie question aujourd'hui de la représentation des gens qui créent la mode, qui sont davantage des hommes et davantage des hommes blancs. Et il y a un vrai sujet dans la mode en ce moment autour de ça.
Et ça, c'est pas en train de bouger ?
C'est pas trop en train de bouger.
Aline, vous, finalement, vous avez trouvé la solution. Vous faites vos propres vêtements.
Ah oui, je me fabrique mon petit monde à moi. Voilà.
Yvonne, vous y connaissez vraiment très bien en histoire de la mode. C'est votre sujet. À quelle époque vous auriez aimé vivre en termes de vêtements?
Je tends le bâton pour me faire battre parce qu'on m'en parle tout le temps, mais c'est le Moyen-Âge, mais en étant un homme. J'aurais été un garçon.
Genre, vous auriez aimé avoir des pantalons en toile de jute et qui sentent un peu le caca?
Non, parce que non.
Bah, c'est non, la vision, excusez-moi, des habits du Moyen-Âge.
Non, c'est pas bien. Ils avaient des pourpoints, des petites vestes matelassées, courtes et
bien comme
fitées.
Franchement, la plupart des Instagrammeuses aujourd'hui qui ont des enfants qui sont très blonds. Des petites vestes molletonnées.
Oui, bah c'est ça. Bah voilà, très bien. Et avec des chausses bien moulantes en bas qui permettaient de gambader dans la nature, à la différence des femmes qui étaient encombrées dans leurs jupons.
Donc, voilà, donc vous mettriez chausses et petits vestons molletonnés. Ça, c'est votre
et là,
style idéal.
Parti à l'aventure.
Et là, on part en forêt. Voilà. Et c'est merveilleux. Aline, vous avez une idée d'époque où vous auriez aimé gambader?
Gambader
en vêtements
pas
tout nus peut-être. Alors, comme à l'Antiquité.
De façon très paradoxale, je pense que j'aurais bien aimé vivre à l'époque de, je sais pas, au XVIIe siècle. Vraiment essayer les corsets, histoire d'avoir la taille fine au moins une fois.
Et d'avoir un corset sur mesure surtout.
Oui, et une très belle robe comme ça, un peu meringue, je pense que ça m'aurait plu.
Est-ce que vous disiez, pour terminer sur cette histoire de corset, Yvan, ce que vous nous disiez hors antenne, c'est que le corset, c'était aussi pas quelque chose pour qu'on voit le corps. Les vêtements n'étaient pas faits pour qu'on voit le corps avant.
C'est-à-dire que la silhouette était construite de manière artificielle. Donc il y avait des sous-vêtements qui créaient une silhouette artificielle avec ce corset et avec des sous-vêtements en bas comme le vertugadin, puis le panier, puis la crinoline qui donnaient énormément d'ampleur à partir des hanches et jusqu'aux pieds. Et donc le fait de voir vraiment le corps féminin, c'est quelque chose qui date du XXe siècle.
Donc des années 20 et de la garce.
Si on évacue toute la partie moyenne, enfin je peux pas faire une...
Vous voulez pas nous faire l'histoire totale du vêtement? Si vous voulez retrouver l'histoire totalement du vêtement, c'est Paré, enquête sur l'émancipation vestimentaire des femmes, c'est chez Hugo Doc, pardon, et c'est donc signé Yvan Jacob. Au revoir, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes aussi la tenancière du compte Sapé comme jadis.